VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Albertson. Au sommaire, en ce mercredi 1er avril 2015,
le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, affirme avoir tenu sa promesse d'organiser un scrutin libre et juste.
Il a reconnu la victoire du général à la retraite Muhammadu Buhari, qui devra relever de nombreux défis.
Le mot, c'est la discipline dans tous les secteurs, dans la gérance administrative, la gérance politique et la gérance économique.
On suivra l'analyse du professeur Akambi Ilupegu de l'Université de l'État de Lagos.
Le président Barack Obama a téléphoné à son homologue congolais, Joseph Kabila, pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques.
En visite aux États-Unis, le président nigérien Mahamadou Issoufou évoque la lutte contre Boko Haram.
Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria.
Le président Mahamadou Issoufou
et le président Obama lèvent le gel de l'aide militaire américaine à l'Égypte. Tout d'abord, le journal.
Le président nigérian sortant Goodluck Jonathan a remercié tous les Nigérians mardi de lui avoir offert l'opportunité de les diriger et il a reconnu avoir perdu l'élection présidentielle de ce week-end. Le général à la retraite Muhammadu Buhari du Congrès progressiste a battu Monsieur Jonathan, candidat du Parti démocratique populaire, le devançant avec près de 2 millions de voix.
Monsieur Jonathan a dit avoir tenu sa promesse d'organiser un scrutin libre et juste. Il a appelé tous ceux qui seraient mécontents des résultats à les contester selon les procédures prévues par la Constitution et les lois électorales. Toujours selon Monsieur Jonathan, l'ambition personnelle ne saurait justifier le sang de quiconque. Le Parti démocratique populaire a dirigé le Nigeria pendant 16 ans.
Le calme semble régner au Nigeria après l'annonce de la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Comment la tension pourtant perceptible avant et durant les élections, a-t-elle été apaisée? Eh bien, Eddie Sango a posé cette question à la seule candidate femme à cette présidentielle, Rémi Sonia.
Ce n'est pas vraiment tout le monde qui est content, mais il y a quand même un peu de soulagement dans le pays tout entier. Il n'y avait pas trop de surprises, hein, vraiment. Les gens savaient déjà que c'était le général qui allait remporter la plupart des États dans le nord et le sud-ouest, tandis que le sud-est, le sud-sud seraient plutôt pour le président Jonathan. Et c'est grosso modo ce qu'on a vu. Donc il n'y avait pas vraiment de grande surprise, étant donné que le général de la Nigérian, on a raison de croire qu'il saurait mieux combattre ce groupe de terroristes, qu'il saurait mieux faire ce qu'il faut faire pour restabiliser le pays tout entier. C'est ce que pensent les gens en général. On prie toujours pour que la paix règne dans le pays tout entier. Pour le moment, je n'ai pas entendu parler des problèmes, des émeutes ou quoi que ce soit. On espère que cela va continuer.
C'était Rémi Sonyaya, jointe par Eddie Isango.
Autre réaction à l'élection de Muhammadu Buhari, celle du professeur Akambi Ilupegu de l'Université de l'État de Lagos.
Le mot, c'est la discipline dans tous les secteurs, dans la gérance administrative, la gérance politique et la gérance économique. C'est toute l'attente d'un Nigérian. Il l'a fait déjà une fois. Simplement mentionne le nom Buhari, fait savoir qu'il y a quelque chose de discipline qui doit se passer. Et voilà pourquoi la population nigériane née avant 1993 sait que le général Buhari est l'homme de sa parole, bien discipliné. Et il a su être politicien parce que les trois autres moments où il a tenté la présidence, il a échoué parce qu'il avait dans lui le sang militaire. Certaines pensées militaires, autoritaires. Il a su comprendre qu'il fallait une alliance avec le Sud-Est. Jamais été dans une alliance viable ou fiable avec le Nord. Jamais. Je pense que cette victoire n'est pas seulement pour le Nord, le Nigeria, c'est surtout pour l'Ouest.
Le professeur Akambi Ilupegu de l'Université de l'État de Lagos, au micro de Timothée Donangmai.
Le président Barack Obama s'est entretenu mardi avec le président congolais Joseph Kabila pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques en temps voulu qui respectent la constitution de la République démocratique du Congo et protègent les droits de tous les citoyens.
Dans un communiqué, le département d'État américain précise que M. Obama a évoqué l'héritage que laissera le président Kabila, un leader qui a sorti la RDC de la guerre, la plaçant sur la voie du progrès démocratique, ce qui consoliderait des élections libres et équitables en 2016. Le président Obama a assuré le président Kabila que les États-Unis resteront engagés aux côtés de la RDC tout au long du processus électoral, y compris à travers la nomination d'un nouvel envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la RDC.
Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur engagement commun à mettre fin à la menace des groupes armés, en particulier les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Monsieur Obama a encouragé les forces armées de la RDC et de la mission de l'Organisation de l'ONU pour la stabilisation RDC à coopérer pour mener des opérations contre les FDLR.
En visite aux États-Unis, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, est revenu sur la lutte contre la milice djihadiste nigériane Boko Haram et il a demandé le vote d'une résolution de l'ONU. Un projet de résolution du Conseil de sécurité prévoit de consolider par un soutien financier et logistique la force régionale de 5 pays qui luttent actuellement contre Boko Haram. La fin de Boko Haram est proche, a déclaré M. Issoufou au micro de Nicolas Pineau.
Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria contre Boko Haram. Il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. C'est le cas de la ville de Damasak, c'est le cas de la ville de Douchi, la ville de Gachgar. Et ce matin même, on vient de m'apprendre que la ville de Malamfatri a été libérée par la coalition nigéro-tchadienne. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout, à l'intérieur du Nigeria, au Niger où ils ont essayé de nous attaquer le 6 février dernier. Nous les avons repoussés à Bosso, à Difa. Nos forces ont pris le dessus. Nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis Boko Haram n'a pas d'avenir. L'avenir de Boko Haram est derrière elle. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pouvons dire que nous verrons la fin de Boko Haram dans la région de la Tchad.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, interview à retrouver sur voaafrique.com.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Négociations en Suisse sur le programme nucléaire de Téhéran. Les discussions entre les 6 puissances mondiales et l'Iran sont prolongées au-delà de la date limite fixée pour un accord cadre. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, semblait optimiste mardi soir après une longue journée de négociations. Un haut responsable américain a déclaré à l'agence France-Presse que les différentes parties doivent encore se mettre d'accord sur certains points clés.
Le président Barack Obama a annoncé à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, qu'il levait le gel de l'aide militaire américaine au Caire, mise en place après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Les précisions de Michel Joseph.
Le gel concernait des avions de chasse F-16, des missiles Harpoon et pièces détachées pour chars M1A1. Mais la Maison-Blanche ne certifie pas que l'Égypte a fait des progrès vers la démocratie. Elle soutient en revanche que les États-Unis maintiennent cette aide dans l'intérêt de leur sécurité nationale. Le président Obama a réitéré ses préoccupations au sujet de l'incarcération continue d'activistes non violents et des procès de masse, précisant que la liberté d'expression et de rassemblement reste un point central de la politique des États-Unis. M. Obama a aussi indiqué à Al-Sisi qu'il continuerait à demander une aide annuelle de 1,3 milliard de dollars pour l'Égypte au titre de l'assistance militaire. Impliqué dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique en Libye, rappelle l'AFP, l'Égypte participe par ailleurs à la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui mène une intervention militaire au Yémen pour contrer l'avancée des rebelles chiites houthis.
Au moins 62 enfants ont été tués et une trentaine d'autres blessés dans les combats au Yémen depuis une semaine, a annoncé l'UNICEF. Les enfants doivent absolument être protégés, a déclaré Julien Arneis, représentant de l'UNICEF pour le Yémen, où l'Arabie saoudite bombarde les rebelles chiites houthis et leurs alliés. On en enchaîne avec la Minute Éco, présentation Félix Yepassis Zimbrou.
Énergie renouvelable. L'ONU confirme la reprise des investissements en 2014. Cette embellie intervient après 2 années de baisse, essentiellement dans les pays émergents. Et cela malgré la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014, a confirmé mardi un rapport onusien. Le programme des Nations Unies pour l'environnement attribue cette augmentation au développement très important des installations dans le solaire en Chine et au Japon, ainsi qu'à des investissements records dans des projets éoliens offshore en Europe. Abidjan abritera la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne. La FIFAS 2015 se tiendra dans la capitale économique ivoirienne du 15 au 17 juin prochain autour du thème « Créer un modèle financier africain ». L'information a été donnée mardi au cours d'une conférence de presse organisée par le comité composé du cabinet FinAfrique, la société de gestion d'actifs BNI, Banque nationale d'investissement, et l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation. 2e édition du Katanga Business Meeting en République démocratique du Congo. Ce sera du 28 au 30 mai 2015. Cet événement a pour objectif d'offrir un espace de rencontre pour les petites et moyennes entreprises et celles de grande taille. Il s'agit d'engendrer des opportunités concrètes d'affaires et de favoriser l'émergence d'un réseau professionnel polyvalent et complémentaire.
On enchaîne avec les sports en compagnie de Timothée Donongmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Camille.
La Confédération africaine de football et la Fédération tunisienne ont tourné la page sur leur désaccord.
Tout à fait Camille. La CAF qui menaçait d'exclure la Tunisie de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a indiqué dans un communiqué hier que le différend est clos suite aux excuses présentées par la partie tunisienne. Les Tunisiens, on s'en rappelle, avaient accusé la CAF d'avoir favorisé le pays hôte après leur élimination en quart de finale de la dernière CAN en Guinée équatoriale sur un pénalty de dernière minute.
Mondial féminin 2015 de football, cet été au Canada, la technologie Hawkeye de détection du ballon sur la ligne de but sera donc au rendez-vous?
Ce dispositif permet de déterminer avec certitude si le ballon a franchi la ligne de but ou non. Il a déjà été utilisé au Mondial des clubs 2012 au Japon et pour la première fois en Coupe du Monde au Brésil l'année dernière.
Qualification pour l'Euro 2016, une bonne opération de la Belgique qui s'est hissée en tête du groupe B en battant Israël hier soir à Jérusalem.
Les Israéliens se sont vaillamment battus mais ont fini par concéder l'unique but de la partie inscrit par Marwan Fellaini dès la 9e minute. La Belgique rejoint le pays de Galles en tête du groupe B avec 11 points.
En match amical, belle prestation de Team USA qui, bien que réduit à 10, a arraché un nul à la Suisse hier à Zurich.
Euphorique après la leçon infligée vendredi à l'Estonie, 3-0, les Suisses n'ont pas réussi à s'imposer face à des Américains très entreprenants qui ouvrent la marque en fin de première manche par Chia. Ce n'est qu'à la 80e minute que l'équipe locale se tirera d'affaire sur une réalisation de Stoker.
Et toujours en amical, pas de chance pour les Espagnols face aux Néerlandais.
La Roja, qui avait mal digéré le 5-1 du dernier mondial, s'était rendue à Amsterdam avec la ferme intention de se venger hier soir. Elle est repartie avec 2 buts encaissés, celui de Stefan de Vrij dès la 13e minute, suivi d'un autre par Davy Klaassen à la 16e minute. Et pour terminer, Camille, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA.
Eh bien, 3 matchs seulement mardi soir en championnat nord-américain de basketball. Les Hawks d'Atlanta n'étaient pas en forme. Ils ont perdu 105-95 devant les Pistons de Detroit. Les Nets de Brooklyn ont triomphé des Pacers d'Indiana par 111-106. Quant aux Spurs de San Antonio, ils ont eu raison du Miami Heat 95-81. Signalons au passage que les San Antonio Spurs et le Miami Heat disputent hier leur 74e match de la saison, mais c'était aussi le 1000e match joué par Tony Parker en saison régulière de NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour présenter les dossiers du jour. La lutte contre Boko Haram d'abord. Eh bien, les relations avec les pays voisins, l'après-pétrole, les attentes tant du continent que de la communauté internationale, du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, sont nombreuses. Pour faire égrener quelques-unes de ces attentes, Jacques Aristide a joué au Canada, l'éditeur et rédacteur en chef du magazine transatlantique, Chika Kanyori.
La communauté internationale attendra d'abord de lui qu'il pacifie les pays, c'est-à-dire qu'il crée d'abord une confiance entre le Nord et le Sud, puisqu'il a déjà été président, même si c'était un dictateur à un certain moment. Mais on pense peut-être que, comme Kérékou, que son passage à vide l'a aidé à réfléchir un tout petit peu et de commencer à voir qu'il pourrait faire quelque chose. Donc, quand il y aura réuni ces deux pays, puisque c'est quand même une grande chance pour le Nigeria, qu'il y ait à peu près deux grandes religions, plusieurs civilisations qui se rencontrent sur le même terrain. Et donc, ça veut dire, au lieu d'en faire un problème, il faudrait plutôt en faire une richesse. Et on espère, d'autant plus que je pense qu'il a eu à la fin le soutien du général Obasanjo, en fin de compte, c'est lui qui était le vrai créateur de Goodluck Jonathan, et qui a été déçu à la fin. Donc, je pense qu'ils vont finir par voir comment ouvrir de nouvelles pistes, notamment pour dépasser aussi l'après-pétrole, puisqu'on ne peut pas continuer. On a compris ce qui est arrivé depuis que le prix du pétrole est descendu, que la plupart des pays africains n'ont même pas créé de fonds souverains comme les autres pays qui ont gardé de l'argent comme l'Arabie Saoudite et surtout comme des pays de l'Europe du Nord, notamment la Norvège. Au Nigeria, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'on a bouffé l'argent du pétrole et aujourd'hui, on n'a pas de quoi. Donc, il faut absolument arriver à créer une vraie économie puisqu'on ne peut pas toujours continuer à faire ça.
Vous venez d'évoquer le nom de Goodluck Jonathan. Justement, quelle lecture faites-vous de sa défaite?
Oui, Goodluck Jonathan n'a pas compris probablement, première des choses, il n'avait pas une grande culture politique. Donc, comme on dit, c'était une création rapide de Obasanjo qui a été déçu et qu'on voulait calmer un peu les gens du delta du Niger, dont il est issu. Le delta du Niger où il y avait des rebelles. Aujourd'hui, on n'en parle plus. D'ailleurs, je me souviens qu'ils ont menacé de détruire le Nigeria il n'y a pas si longtemps si Goodluck Jonathan n'est pas élu. C'est déjà assez grave qu'un président ait permis que des affaires comme ça se disent. Ça veut dire qu'il n'avait pas une stature de grand politicien, de quelqu'un qui comprend qu'est-ce qu'il faut faire pour un pays, surtout un pays si diversifié. Et en plus, il s'est contenté, en fin de compte, comme Boko Haram était au nord, il s'en foutait en d'autres termes, puisqu'on ne sent pas, on a dit même, on a récemment senti que même le Tchad et même la France lui reprochaient de n'avoir pas fait grand-chose, puisque lui, tant que ça ne menaçait pas directement Abuja et le sud où il y a le pétrole, mais c'est qu'il oubliait que ça faisait quand même mal aux gens du nord, qui existent aussi, et même au sud, les gens qui croient en leur pays, ils trouvaient ça complètement incroyable.
Chika Kanyori, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique, était en ligne de Montréal.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Tout sur le verdict des urnes au Nigeria, analyse et commentaires de nos invités. Un scrutin d'ores et déjà jugé démocratique par l'Union africaine, mais des interférences politiques ont quand même été notées. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au micro, Camille Grodidier, la présidentielle togolaise aura lieu finalement le 25 avril au lieu du 10. Un report annoncé la semaine dernière. À l'origine de cette décision, le mécontentement de l'opposition concernant la liste électorale qui sera donc révisée. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï a joint Lomé Bemba Naburema, vice-président de la CENI pour le compte de l'opposition.
Depuis un certain nombre de temps, les partis politiques et surtout les candidats qui vont aller aux élections ne sont pas d'accord avec le fichier électoral qui ne paraît pas un fichier assez clair. Donc depuis longtemps, nous qui représentions l'opposition à la CENI, nous avons demandé à tous les experts qui sont passés ici de tout faire pour qu'on revoie le fichier électoral. Et surtout si on peut envoyer une mission d'experts au niveau de notre CENI pour travailler avec les experts internationaux qui sont là-bas, qui sont placés par le gouvernement. Comme ça rassurait tout le monde, mais ça n'a pas été entendu jusqu'au dernier moment où l'ANC, ayant reçu quand même une copie du fichier électoral, a détecté qu'il y avait des doublons, a écrit à l'OIF pour demander de venir voir ce problème de doublons. Et le gouvernement aussi a demandé à l'OIF. L'OIF est arrivé et puis effectivement, on a constaté qu'il y a des doublons. Donc, on a demandé que ce fichier soit revu. Ils sont en train de travailler là-dessus et que c'est à cause de ce fichier qui n'est pas propre qu'il faut qu'on a reporté les élections.
Quel est le travail qui s'effectue concrètement sur ce fichier en ce moment?
Vous savez, sur le fichier, on a constaté qu'il y a des gens qui ont plusieurs cartes. Il y a plusieurs personnes qui ont le même numéro. Il y a des gens qui sont dans la base de données qui n'ont pas d'empreinte digitale. Il y a l'inscription des mineurs. Et puis, bon, pour qu'on puisse avoir une idée nette de ce que c'est que ce corps électoral, de combien de personnes il est composé.
Pensez-vous que le délai imparti permettra de mener à bien cette mission?
Bon, moi, je suis pas... Il y a un groupe d'experts qui travaillent là-bas, de l'OIF. Et chaque candidat a envoyé un expert. Ils sont en train de travailler. C'est eux qui nous diront exactement combien de temps il leur faut.
En dehors de la liste électorale, qu'en est-il des autres aspects du processus électoral au Togo?
Oui, bon, le deuxième problème qui s'était posé, c'est le problème du bulletin de vote. Parce que la forme qui a été donnée, l'ANC n'était pas d'accord. Parce que après le tirage au sort, M. Jean-Pierre Fabre était en tête. Et les nouvelles dispositions horizontales font que ça a annihilé complètement le tirage au sort. Donc, l'ANC a demandé qu'on le revoie. Et le président ghanéen était d'accord qu'on revoie le bulletin de vote. Donc, il faut qu'on adopte l'ancien bulletin de vote qu'on a eu l'habitude d'utiliser.
Bemba Naburema, vice-président de la CENI du Togo, qui était joint à Lomé.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Camille Grodidi avec vous. Le président Barack Obama s'est entretenu mardi avec le président congolais Joseph Kabila pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques en temps voulu qui respectent la constitution de la République démocratique du Congo et protègent les droits de tous les citoyens. Entre-temps, dans l'est de la RDC, des notables de la communauté katangaise s'opposent toujours au processus de mise en œuvre du découpage territorial. Cette disposition constitutionnelle prévoit notamment le passage du nombre de provinces de 11 actuellement à 26. Dans une correspondance adressée au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les notables ont à nouveau évoqué la pétition déposée au mois de mars 2009, conformément aux prescrits de la Constitution. On écoute un reportage de Nawal Mabila.
Ils reviennent à la charge par une lettre pour rappeler aux responsables des institutions du pays leur opposition au découpage sur base d'une pétition de 150 000 signatures déposées en mars 2009, dont certains ministres du gouvernement Matata Ponyo avaient signé, à savoir les ministres de la Santé et celui de la Défense, Maître Jérôme-Yves Kyungu.
La nouvelle lettre est en train de renforcer carrément la position des Katangais qui consiste à s'opposer catégoriquement au découpage de la province. Donc maintenant, nous rappelons au chef de l'État, au Premier ministre, aux deux assemblées, au président de la Cour constitutionnelle que nous, Katangais, au moment opportun, en temps opportun, nous nous étions opposés au découpage de notre province. Donc, ils doivent en tenir compte parce que le découpage sera bientôt là effectif. Et donc, les Katangais ne se sentent pas concernés. Et cela étant, ils demandent carrément que les autorités des deux chambres respectent la Constitution, aussi bien que le président de la République et toutes les autres institutions.
L'opposition au découpage a été exprimée aussi à l'Assemblée provinciale le lundi 30 mars lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Antoine Gabriel Kyungwakumwaza, président de l'Assemblée provinciale, a appelé le Katangais à rester uni, à éviter les bains de sang, tout en rappelant l'histoire du Katanga au Shaba.
Mobutu a fait de nous des charrières. Mais tu es Katangais, voilà.
Georges Mawine, ancien président de jeunes du PPRD qui a participé à l'ouverture de la session, fait sa lecture du message du président de l'Assemblée provinciale.
Parler en Swahili, il a voulu tout simplement donner la position en tant que premier élu du Katanga, que le Katanga s'oppose au découpage territorial. Le découpage territorial pour le président est venu intercaler ou s'interposer aux élections qui arrivent parce que c'est une réforme qui est arrivée à un mauvais moment parce qu'il y a les élections que nous nous attendons cette année pour qu'on évite un bain de sang, créer pas mal de tumultes pour ceux-là qui veulent garder l'identité katangaise. Nous ne pouvons pas nous opposer à cette réforme dans le sens où c'est constitutionnel.
Malgré tout, rien ne peut arrêter la machine du gouvernement qui poursuit sa marche, où l'on signale au Katanga l'arrivée d'un envoyé spécial du chef de l'État, M. Kalev, qui est le patron de l'Agence nationale de renseignement, qui est venu évaluer la situation politique et sécuritaire au Katanga, Lubumbashi. Narval Mabila pour VOA Afrique.
La peine de mort est en recul sur la planète, affirme Amnesty International dans son rapport pour l'année 2014. Pour en savoir davantage, Jean-Roger Bion a joint Dakar Steve Coburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Nous avons vu une baisse importante de plus de 20% des personnes exécutées comparées à 2013. Maintenant, il n'y a que 22 pays qui ont utilisé cette peine dans le monde. Donc, ça veut dire que pour la plupart, c'est une pratique qui devient un peu dépassée. Mais au même temps, nous avons vu aussi une forte augmentation de presque 30% des condamnations à mort. Et donc, c'est un peu partagé le bilan. Le dernier chiffre, ça représente pour nous une tendance assez inquiétante parce que nous voyons que certains États ont recouru à la peine de mort pour répondre aux menaces réelles ou présumées du terrorisme. Par exemple, Nigeria a condamné plus de 650 personnes à mort l'année passée, qui est 4 fois plus élevé que 2013. Et pareil pour l'Égypte aussi, qui a condamné plus de 500 personnes à mort l'année passée.
Alors, quels sont les développements positifs que vous retenez dans ce rapport?
Donc, les développements positifs, quand on regarde l'Afrique, par exemple, il y avait 5 pays en 2013 qui avaient exécuté les personnes, mais en 2014, il n'y avait que 3 pays, c'est la Guinée équatoriale, la Somalie et le Soudan. Nous voyons aussi quelques pays qui prennent les étapes vers l'abolition de la peine de mort. Par exemple, au Ghana et en Sierra Leone, les gouvernements ont pris les engagements d'aller vers l'abolition. Ils considèrent les mesures nécessaires d'abolir la peine de mort et nous espérons beaucoup qu'ils vont aboutir.
Alors, vous avez cité 2 pays où la situation est critique en Afrique. Que faut-il faire?
Ce que nous voyons en Afrique, un des pays les plus critiques en ce moment, c'est le Nigeria, qui avait recommencé à utiliser la peine de mort en réponse au combat contre Boko Haram. Pour nous, nous voyons que ce n'est pas une mesure efficace contre Boko Haram. C'est ni juste, c'est ni efficace. Ça ne va pas aider le combat contre le terrorisme. Mais en revanche, ça risque de créer les injustices qu'on ne pourrait jamais corriger.
Steve Coburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Salut les amis, Roger Moutou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce mercredi pour écouter de la bonne musique country. Et bien sûr, nous allons aussi lire le mail que vous nous avez envoyé sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Notre sujet de cette semaine, comment éviter les conflits avec la belle famille? Comment améliorer aussi la relation avec sa belle famille? La difficile relation, on l'a dit, hein, avec la belle famille a toujours existé à travers les époques. Elle peut aboutir à créer des tensions irréversibles et par conséquent s'y traduire en problème de couple. Alors, les torts sont souvent partagés et à force des patiences, il est possible d'améliorer les rapports entre ses meilleurs ennemis. Les amis, ne ratez pas, continuons avec ce sujet. Cette semaine, nous allons lire bien sûr vos messages que vous nous avez textés sur notre numéro d'Abidjan 225-58-92-8540. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace, Africa!
You only love me for my big sunglasses and my Tony Lomas and my Dark Shark Classic. You said I'd be Johnny and you'd be June. Backyard swagger.
voilà Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Watson. Au micro, Camille Gros-Didier. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet. Et entre-temps, très bonne journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Gros-Didier et Anne Arbetson. Au sommaire, en ce mercredi 1er avril 2015,
le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, affirme avoir tenu sa promesse d'organiser un scrutin libre et juste.
Il a reconnu la victoire du général à la retraite Muhammadu Buhari, qui devra relever de nombreux défis.
Le mot, c'est la discipline dans tous les secteurs, dans la gérance administrative, la gérance politique et la gérance économique.
On suivra l'analyse du professeur Akambi Ilupegu de l'Université de l'État de Lagos.
Le président Barack Obama a téléphoné à son homologue congolais, Joseph Kabila, pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques.
En visite aux États-Unis, le président nigérien Mahamadou Issoufou évoque la lutte contre Boko Haram.
Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria.
Le président Mahamadou Issoufou
et le président Obama lèvent le gel de l'aide militaire américaine à l'Égypte. Tout d'abord, le journal.
Le président nigérian sortant Goodluck Jonathan a remercié tous les Nigérians mardi de lui avoir offert l'opportunité de les diriger et il a reconnu avoir perdu l'élection présidentielle de ce week-end. Le général à la retraite Muhammadu Buhari du Congrès progressiste a battu M. Jonathan, candidat du Parti démocratique populaire, le devançant avec près de 2 millions de voix.
M. Jonathan a dit avoir tenu sa promesse d'organiser un scrutin libre et juste. Il a appelé tous ceux qui seraient mécontents des résultats à les contester selon les procédures prévues par la Constitution et les lois électorales. Toujours selon M. Jonathan, l'ambition personnelle ne saurait justifier le sang de quiconque. Le Parti démocratique populaire a dirigé le Nigeria pendant 16 ans.
Le calme semble régner au Nigeria après l'annonce de la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Comment la tension pour perceptible avant et durant les élections a-t-elle été apaisée? Eh bien, Eddie Sango a posé cette question à la seule candidate femme à cette présidentielle, Rémi Sonia.
Ce n'est pas vraiment tout le monde qui est content, mais il y a quand même un peu de soulagement dans le pays tout entier. Il n'y avait pas trop de surprises, hein, vraiment. Les gens savaient déjà que c'était le général qui allait remporter la plupart des États dans le nord et le sud-ouest, tandis que le sud-est, le sud-sud seraient plutôt pour le président Jonathan. Et c'est grosso modo ce qu'on a vu. Donc il n'y avait pas vraiment de grande surprise, étant donné que le général de l'armée nigérian, on a raison de croire qu'il saurait mieux combattre ce groupe de terroristes, qu'il saurait mieux faire ce qu'il faut faire pour restabiliser le pays tout entier. C'est ce que pensent les gens en général. On prie toujours pour que la paix règne dans le pays tout entier. Pour le moment, je n'ai pas entendu parler des problèmes, des émeutes ou quoi que ce soit. On espère que cela va continuer.
C'était Rémi Sonyaya, jointe par Eddie Isango.
Autre réaction à l'élection de Muhammadu Buhari, celle du professeur Akambi Ilupeju de l'Université de l'État de Lagos.
Le mot, c'est la discipline dans tous les secteurs, dans la gérance administrative, la gérance politique et la gérance économique. C'est toute l'attente d'un Nigérien. Il l'a fait déjà une fois. Simplement mentionne le nom Buhari, fait savoir qu'il y a quelque chose de discipline qui doit se passer. Et voilà pourquoi la population nigériane née avant 1993 sait que le général Buhari est l'homme de sa parole. Bien discipliné, Et il a su être politicien parce que les trois autres moments où il a tenté la présidence, il a échoué parce qu'il avait dans lui le sang militaire, certaines pensées militaires, autoritaires. Il a su comprendre qu'il fallait une alliance avec le Sud-Est. Jamais été dans une alliance viable ou fiable avec le Nord. Jamais. Je pense que cette victoire n'est pas seulement pour le Nord, le Nigeria, c'est surtout pour l'Ouest.
Le professeur Akanbi Ilupeju de l'Université de l'État de Lagos, au micro de Timothée Donangmaï.
Le président Barack Obama s'est entretenu mardi avec le président congolais Joseph Kabila pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques en temps voulu qui respectent la constitution de la République démocratique du Congo et protègent les droits de tous les citoyens.
Dans un communiqué, le département d'État américain précise que M. Obama a évoqué l'héritage que laissera le président Kabila, un leader qui a sorti la RDC de la guerre, la plaçant sur la voie du progrès démocratique, ce qui consoliderait des élections libres et équitables en 2016. Le président Obama a assuré le président Kabila que les États-Unis resteront engagés aux côtés de la RDC tout au long du processus électoral, y compris à travers la nomination d'un nouvel envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la RDC.
Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur engagement commun à mettre fin à la menace des groupes armés, en particulier les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Monsieur Obama a encouragé les forces armées de la RDC et de la mission de l'Organisation de l'ONU pour la stabilisation RDC à coopérer pour mener des opérations contre les FDLR.
En visite aux États-Unis, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, est revenu sur la lutte contre la milice djihadiste nigériane Boko Haram et il a demandé le vote d'une résolution de l'ONU. Un projet de résolution du Conseil de sécurité prévoit de consolider par un soutien financier et logistique la force régionale de 5 pays qui luttent actuellement contre Boko Haram. La fin de Boko Haram est proche, a déclaré M. Issoufou au micro de Nicolas Pineau.
Nous avons remporté beaucoup de victoires sur Boko Haram, en particulier les forces tchadiennes et les forces nigériennes qui ont mené depuis le mois de mars une offensive à l'intérieur du Nigeria contre Boko Haram. Il y a beaucoup de villes qui ont été libérées. C'est le cas de la ville de Damasak, c'est le cas de la ville de Douchi, la ville de Gachgar. Et ce matin même, on vient de m'apprendre que la ville de Malamfatri a été libérée par la coalition nigéro-tchadienne. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout à l'intérieur du Nigeria. Au Niger, où ils ont essayé de nous attaquer le 6 février dernier, nous les avons repoussés à Bosso, à Diffa. Nos forces ont pris le dessus, nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis, Boko Haram n'a pas d'avenir. L'avenir de Boko Haram est derrière elle. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pouvons dire que nous verrons la fin de Boko Haram dans la région du lac Tchad.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, interview à retrouver sur voaafrique.com.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Négociations en Suisse sur le programme nucléaire de Téhéran. Les discussions entre les 6 puissances mondiales et l'Iran sont prolongées au-delà de la date limite fixée pour un accord cadre. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, semblait optimiste mardi soir après une longue journée de négociations. Un haut responsable américain a déclaré à l'agence France-Presse que les différentes parties doivent encore se mettre d'accord sur certains points clés.
Le président Barack Obama a annoncé à son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, qu'il levait le gel de l'aide militaire américaine au Caire, mise en place après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Les précisions de Michel Joseph.
Le gel concernait des avions de chasse F-16, des missiles Harpoon et pièces détachées pour chars M1A1. Mais la Maison-Blanche ne certifie pas que l'Égypte a fait des progrès vers la démocratie. Elle soutient en revanche que les États-Unis maintiennent cette aide dans l'intérêt de leur sécurité nationale. Le président Obama a réitéré ses préoccupations au sujet de l'incarcération continue d'activistes non violents et des procès de masse, précisant que la liberté d'expression et de rassemblement reste un point central de la politique des États-Unis. Monsieur Obama a aussi indiqué à Al-Sisi qu'il continuerait à demander une aide annuelle de 1,3 milliard de dollars pour l'Égypte au titre de l'assistance militaire. Impliqué dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique en Libye, rappelle l'AFP, l'Égypte participe par ailleurs à la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui mène une intervention militaire au Yémen pour contrer l'avancée des rebelles chiites houthis.
Au moins 62 enfants ont été tués et une trentaine d'autres blessés dans les combats au Yémen depuis une semaine, a annoncé l'UNICEF. Les enfants doivent absolument être protégés, a déclaré Julien Arneis, représentant de l'UNICEF pour le Yémen, où l'Arabie saoudite bombarde les rebelles chiites houthis et leurs alliés. On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Félix Yepassis Zimbrou.
Énergie renouvelable. L'ONU confirme la reprise des investissements en 2014. Cette embellie intervient après 2 années de baisse, essentiellement dans les pays émergents. Et cela malgré la chute des prix du pétrole depuis la mi-2014, a confirmé mardi un rapport onusien. Le programme des Nations Unies pour l'environnement attribue cette augmentation au développement très important des installations dans le solaire en Chine et au Japon, ainsi qu'à des investissements records dans des projets éoliens offshore en Europe. Abidjan abritera la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne. La FIFAS 2015 se tiendra dans la capitale économique ivoirienne du 15 au 17 juin prochain autour du thème « Créer un modèle financier africain ». L'information a été donnée mardi au cours d'une conférence de presse organisée par le comité composé du cabinet FinAfrique, la société de gestion d'actifs BNI, Banque nationale d'investissement, et l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation. 2e édition du Katanga Business Meeting en République démocratique du Congo. Ce sera du 28 au 30 mai 2015. Cet événement a pour objectif d'offrir un espace de rencontre pour les petites et moyennes entreprises et celles de grande taille. Il s'agit d'engendrer des opportunités concrètes d'affaires et de favoriser l'émergence d'un réseau professionnel polyvalent et complémentaire.
On enchaîne avec les sports en compagnie de Timothée Donongmai. Bonjour Timothée.
Bonjour Camille.
La Confédération africaine de football et la Fédération tunisienne ont tourné la page sur leur désaccord.
Tout à fait Camille. La CAF qui menaçait d'exclure la Tunisie de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a indiqué dans un communiqué hier que le différend est clos suite aux excuses présentées par la partie tunisienne. Les Tunisiens, on s'en rappelle, avaient accusé la CAF d'avoir favorisé le pays hôte après leur élimination en quart de finale de la dernière CAN en Guinée équatoriale sur un pénalty de dernière minute.
Mondial féminin 2015 de football, cet été au Canada, la technologie Hawkeye de détection du ballon sur la ligne de but sera donc au rendez-vous?
Ce dispositif permet de déterminer avec certitude si le ballon a franchi la ligne de but ou non. Il a déjà été utilisé au Mondial des clubs 2012 au Japon et pour la première fois en Coupe du Monde au Brésil l'année dernière.
Qualification pour l'Euro 2016, une bonne opération de la Belgique qui s'est hissée en tête du groupe B en battant Israël hier soir à Jérusalem.
Les Israéliens se sont vaillamment battus mais ont fini par concéder l'unique but de la partie inscrit par Marwan Fellaini dès la 9e minute. La Belgique rejoint le pays de Galles en tête du groupe B avec 11 points.
En match amical, belle prestation de Team USA qui, bien que réduit à 10, a arraché un nul à la Suisse hier à Zurich.
Euphorique après la leçon infligée vendredi à l'Estonie, 3-0, les Suisses n'ont pas réussi à s'imposer face à des Américains très entreprenants qui ouvrent la marque en fin de première manche par Chia. Ce n'est qu'à la 80e minute que l'équipe locale se tirera d'affaire sur une réalisation de Stoker.
Et toujours en amical, pas de chance pour les Espagnols face aux Néerlandais.
La Roja, qui avait mal digéré le 5-1 du dernier mondial, s'était rendue à Amsterdam avec la ferme intention de se venger hier soir. Elle est repartie avec 2 buts encaissés, celui de Stefan de Vrij dès la 13e minute, suivi d'un autre par Davy Klaassen à la 16e minute. Et pour terminer, Camille, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA.
Eh bien, trois matchs seulement mardi soir en championnat nord-américain de basketball. Les Hawks d'Atlanta n'étaient pas en forme. Ils ont perdu 105-95 devant les Pistons de Detroit. Les Nets de Brooklyn ont triomphé des Pacers d'Indiana par 111-106. Quant aux Spurs de San Antonio, ils ont eu raison du Miami Heat 95-81. Signalons au passage que les San Antonio Spurs et le Miami Heat disputaient hier leur 74e match de la saison, mais c'était aussi le 1000e match joué par Tony Parker en saison régulière de NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Grodidier pour présenter les dossiers du jour. La lutte contre Boko Haram d'abord. Eh bien, les relations avec les pays voisins, l'après-pétrole, les attentes tant du continent que de la communauté internationale, du président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, sont nombreuses. Pour faire égrener quelques-unes de ces attentes, Jacques Aristide a joué au Canada, l'éditeur et rédacteur en chef du magazine transatlantique, Chika Kanyori.
La communauté internationale attendra d'abord de lui qu'il pacifie les pays, c'est-à-dire qu'il crée d'abord une confiance entre le Nord et le Sud, puisqu'il a déjà été président, même si c'était un dictateur à un certain moment. Mais on pense peut-être que, comme Kérékou, que son passage à vide l'a aidé à réfléchir un tout petit peu et de commencer à voir qu'il pourrait faire quelque chose. Donc quand il y aura réuni ces deux pays, puisque c'est quand même une grande chance pour le Nigeria, qu'il y ait à peu près deux grandes religions, plusieurs civilisations qui se rencontrent sur le même terrain. Et donc, ça veut dire, au lieu d'en faire un problème, il faudrait plutôt en faire une richesse. Et on espère, d'autant plus que je pense qu'il a eu à la fin le soutien du général Obasanjo, en fin de compte, celui qui était le vrai créateur de Goodluck Jonathan, et qui a été déçu à la fin. Donc, je pense qu'ils vont finir par voir comment ouvrir de nouvelles pistes, notamment pour dépasser aussi l'après-pétrole, puisqu'on ne peut pas continuer. On a compris ce qui est arrivé depuis que le prix du pétrole est descendu, que la plupart des pays africains n'ont même pas créé des fonds souverains comme les autres pays qui ont gardé de l'argent comme l'Arabie Saoudite et surtout comme des pays de l'Europe du Nord, notamment la Norvège. Au Nigeria, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'on a bouffé l'argent du pétrole et aujourd'hui, on n'a pas de quoi. Donc, il faut absolument arriver à créer une vraie économie puisqu'on ne peut pas toujours continuer à faire ça.
Vous venez d'évoquer le nom de Goodluck Jonathan. Justement, quelle lecture faites-vous de sa défaite?
Oui, Goodluck Jonathan n'a pas compris probablement, première des choses, il n'avait pas une grande culture politique. Donc, comme on dit, c'était une création rapide de Obasanjo qui a été déçu et qu'on voulait calmer un peu les gens du delta du Niger dont il est issu. Le delta du Niger où il y avait des rebelles. Aujourd'hui, on n'en parle plus. D'ailleurs, je me souviens qu'ils ont menacé de détruire le Nigeria il n'y a pas si longtemps si Goodluck Jonathan n'est pas élu. C'est déjà assez grave qu'un président ait permis que des affaires comme ça se disent. Ça veut dire qu'il n'avait pas une stature de grand politicien, de quelqu'un qui comprend qu'est-ce qu'il faut faire pour un pays, surtout un pays si diversifié. Et en plus, il s'est contenté, en fin de compte, comme Boko Haram était au nord, il s'en foutait en d'autres termes, puisqu'on ne sent pas, on a dit même, on a récemment senti que même le Tchad et même la France lui reprochaient de n'avoir pas fait grand-chose, puisque lui, tant que ça ne menaçait pas directement Abuja et le sud où il y a le pétrole, mais ce qu'il oubliait que ça faisait quand même mal aux gens du nord, qui existent aussi, et même au sud, les gens qui croient en leur pays, ils trouvaient ça complètement incroyable.
Chika Kanyori, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique, était en ligne de Montréal.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, tout sur le verdict des urnes au Nigeria, analyse et commentaires de nos invités, un scrutin d'ores et déjà jugé démocratique par l'Union africaine, mais des interférences politiques ont quand même été notées. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Au micro, Camille Grosdidier, la présidentielle togolaise aura lieu finalement le 25 avril au lieu du 10. Un report annoncé la semaine dernière. À l'origine de cette décision, le mécontentement de l'opposition concernant la liste électorale qui sera donc révisée. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï a joint Lomé Bemba Naburema, vice-président de la CENI, pour le compte de l'opposition.
Depuis un certain nombre de temps, les partis politiques et surtout les candidats qui vont aller aux élections ne sont pas d'accord avec le fichier électoral qui ne paraît pas un fichier assez clair. Donc depuis longtemps, nous qui représentions l'opposition à la CENI, nous avons demandé à tous les experts qui sont passés ici de tout faire pour qu'on revoie le fichier électoral. Et surtout si on peut envoyer une mission d'experts au niveau de notre CENI pour travailler avec les experts internationaux qui sont là-bas, qui sont placés par le gouvernement. Comme ça, ça a rassuré tout le monde, mais ça n'a pas été entendu jusqu'au dernier moment. Où l'ANC, ayant reçu quand même une copie du fichier électoral, a détecté qu'il y avait des doublons, a écrit à l'OIF pour demander de venir voir ce problème de doublons. Et le gouvernement aussi a demandé à l'OIF. L'OIF est arrivé et puis effectivement, on a constaté qu'il y a des doublons. Donc, on a demandé que ce fichier soit revu. Ils sont en train de travailler là-dessus et que c'est à cause de ce fichier qui n'est pas propre qu'il faut qu'on a reporté les élections.
Quel est le travail qui s'effectue concrètement sur ce fichier en ce moment?
Vous savez, sur le fichier, on a constaté qu'il y a des gens qui ont plusieurs cartes. Il y a plusieurs personnes qui ont le même numéro. Il y a des gens qui sont dans la base de données qui n'ont pas d'empreinte digitale. Il y a l'inscription des mineurs. Et puis, bon, pour qu'on puisse avoir une idée nette de ce que c'est que ce corps électoral, de combien de personnes il est composé.
Pensez-vous que le délai imparti permettra de mener à bien cette mission?
Bon, moi, je suis pas... Il y a un groupe d'experts qui travaillent là-bas, de l'OIF, et chaque candidat a envoyé un expert. Ils sont en train de travailler. C'est eux qui nous diront exactement combien de temps il leur faut.
En dehors de la liste électorale, qu'en est-il des autres aspects du processus électoral au Togo?
Oui, bon, le deuxième problème qui s'était posé, c'est le problème du bulletin de vote. Parce que la forme qui a été donnée, la ANC n'était pas d'accord. Parce que après le tirage du sort, M. Jean-Pierre Fabre était en tête. Et les nouvelles dispositions horizontales font que ça a annihilé complètement le tirage du sort. Donc la ANC a demandé qu'on le revoie. Et le président Ghanéen était d'accord qu'on revoie le bulletin de vote. Donc il faut qu'on adopte l'ancien bulletin de vote qu'on a eu l'habitude d'utiliser.
Bemba Naburema, vice-président de la CENI du Togo, qui était joint à Lomé.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Camille Grosdidier avec vous. Le président Barack Obama s'est entretenu mardi avec le président congolais Joseph Kabila pour souligner l'importance d'élections crédibles et pacifiques en temps voulu qui respectent la constitution de la République démocratique du Congo et protègent les droits de tous les citoyens. Entre-temps, dans l'est de la RDC, des notables de la communauté katangaise s'opposent toujours au processus de mise en œuvre du découpage territorial. Cette disposition constitutionnelle prévoit notamment le passage du nombre de provinces de 11 actuellement à 26. Dans une correspondance adressée au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les notables ont à nouveau évoqué la pétition déposée au mois de mars 2009, conformément aux prescrits de la Constitution. On écoute un reportage de Nawal Mabila.
Et reviennent à la charge par une lettre pour rappeler aux responsables des institutions du pays leur opposition au découpage sur base d'une pétition de 150 000 signatures déposées en mars 2009 dont certains ministres du gouvernement Matata Ponyo avaient signé, à savoir les ministres de la Santé et celui de la Défense, Maître Jérôme Kyungu.
La nouvelle lettre est en train de renforcer carrément la position des Katangais qui consiste à s'opposer catégoriquement au découpage de la province. Donc maintenant, nous rappelons au chef de l'État, au Premier ministre, aux deux assemblées, au président de la Cour constitutionnelle, que nous, Katangais, au moment opportun, en temps opportun, nous nous étions opposés au découpage de notre province. Donc, ils doivent en tenir compte parce que le découpage sera bientôt là effectif. Et donc, les Katangais ne se sentent pas concernés. Et cela étant, ils demandent carrément que les autorités des deux chambres respectent la Constitution, aussi bien que le président de la République et toutes les autres institutions.
L'opposition au découpage a été exprimée aussi à l'Assemblée provinciale le lundi 30 mars lors de l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars. Antoine Gabriel Kyungwa Kumwaza, président de l'Assemblée provinciale, a appelé le Katangé à rester unis, à éviter les bains de sang, tout en rappelant l'histoire du Katanga au Shaba.
Mon bout, toi, préfère de nous, des chabières. Mais tu es Katangé, voilà. les chantiers des cellulaires. Si oui, c'est partout.
Georges Mawiné, ancien président de jeunes du PPRD qui a participé à l'ouverture de la session, fait sa lecture du message du président de l'Assemblée provinciale.
Parler en swahili, il a voulu tout simplement donner la position en tant que premier élu du Katanga, que le Katanga s'oppose au découpage territorial. Le découpage territorial pour le président est venu intercaler ou s'interposer aux élections qui arrivent, parce que c'est une réforme qui est arrivée à un mauvais moment, parce qu'il y a les élections que nous attendons cette année pour qu'on évite un bain de sang, créer pas mal de tumultes pour ceux-là qui veulent garder l'identité katangaise. Nous ne pouvons pas nous opposer à cette réforme dans le sens où c'est constitutionnel.
Malgré tout, rien ne peut arrêter la machine du gouvernement qui poursuit sa marche, où l'on signale au Katanga l'arrivée de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Kalev, qui est le patron de l'Agence nationale de renseignement, qui est venu évaluer la situation politique et sécuritaire au Katanga, Lubumbashi. Narval Mabila pour VOA Afrique.
La peine de mort est en recul sur la planète, affirme Amnesty International dans son rapport pour l'année 2014. Pour en savoir davantage, Jean-Roger Bion a joint Dakar Steve Coburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Nous avons vu une baisse importante de plus de 20% des personnes exécutées comparé à 2013. Et maintenant, il n'y a que 22 pays qui ont utilisé cette peine dans le monde. Donc, ça veut dire que pour la plupart, c'est une pratique qui devient un peu dépassée. Mais au même temps, nous avons vu aussi une forte augmentation de presque 30% des condamnations à mort. Et donc, c'est un peu partagé le bilan. Le dernier chiffre, ça représente pour nous une tendance assez inquiétante parce que nous voyons que certains États ont recouru à la peine de mort pour répondre aux menaces réelles ou présumées du terrorisme. Par exemple, Nigeria a condamné plus de 650 personnes à mort l'année passée, qui est 4 fois plus élevé que 2013. Et pareil pour l'Égypte aussi, qui a condamné plus de 500 personnes à mort l'année passée.
Alors, quels sont les développements positifs que vous retenez dans ce rapport?
Donc, les développements positifs, quand on regarde l'Afrique, par exemple, il y avait 5 pays en 2013 qui avaient exécuté les personnes, mais en 2014, il n'y avait que 3 pays, c'est la Guinée équatoriale, la Somalie et le Soudan. Nous voyons aussi quelques pays qui prennent les étapes vers l'abolition de la peine de mort. Par exemple, au Ghana et en Sierra Leone, les gouvernements ont pris les engagements d'aller vers l'abolition. Ils considèrent les mesures nécessaires d'abolir la peine de mort et nous espérons beaucoup qu'ils vont aboutir.
Alors, vous avez cité 2 pays où la situation est critique en Afrique. Que faut-il faire?
Ce que nous voyons en Afrique, un des pays les plus critiques en ce moment, c'est le Nigeria, qui avait recommencé à utiliser la peine de mort en réponse au combat contre Boko Haram. Pour nous, nous voyons que ce n'est pas une mesure efficace contre Boko Haram. C'est ni juste, c'est ni efficace. Ça ne va pas aider le combat contre le terrorisme. Mais en revanche, ça risque de créer les injustices qu'on ne pourrait jamais corriger.
Steve Coburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Salut les amis, Roger Moutou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce mercredi pour écouter de la bonne musique country. Et bien sûr, nous allons aussi lire le mail que vous nous avez envoyé sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Notre sujet de cette semaine, comment éviter les conflits avec la belle famille? Comment améliorer aussi la relation avec sa belle famille? La difficile relation, on l'a dit, avec la belle famille a toujours existé à travers les époques. Elle peut aboutir à créer des tensions irréversibles et par conséquent s'y traduire en problème de couple. Alors, les torts sont souvent partagés et à force des patiences, il est possible d'améliorer les rapports entre ses meilleurs ennemis. Les amis, ne ratez pas, continuons avec ce sujet. Cette semaine, nous allons lire bien sûr vos messages que vous nous avez textés sur notre numéro d'Abidjan 225-58-928540. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace, Africa!
You only love me for my big sunglasses and my Tony Lomas and my Dodge Dart Classic. You said I'd be Johnny and you'd be June. And now I'm right with you to the moon. Guess what? You can't ride in my little red wagon. The front seat's broken and the axle's dragging. Drop the lever. Ooh. Ooh.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Watson. Au micro, Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet. Et entre-temps, très bonne journée.